Bonjour à toutes et à tous, ici Bethléem Hickman pour cette nouvelle édition de Troisième Planète. Troisième Planète où l'on parle d'environnement et de société. Alors dans ces dernières éditions, on a beaucoup parlé d'action citoyenne, choisir son mode de transport, là où on vit, participer au Jour de la Terre. Et on a un peu moins parlé d'un acteur primordial dans la protection de notre environnement, c'est les entreprises. Les entreprises qui sont en partie part du problème, entre guillemets, mais aussi des fournisseurs de solutions. Et puis, ils ont une part de responsabilité à assumer vis-à-vis de la société. Et aujourd'hui, on reçoit donc Geneviève Gauthier.
Bonjour.
Bonjour, qui travaille chez Tactetic en tant que chargée de projet. Tactetic, c'est l'une des plus importantes firmes de conseil en développement durable. Voilà. Bonjour à toi, Geneviève.
Bonjour.
Comme je l'ai dit, la semaine dernière, on a parlé de développement durable. On a commencé à en parler avec Véronique Jean-Pierre, de cette notion, de ce concept qui est basé sur un équilibre entre faire du profit, et oui, il faut en faire, mais sans avoir d'impact nocif sur l'environnement, et en apportant bien sûr un bénéfice pour la société en général, ses salariés et ses partenaires. Alors chez Tactetic, on travaille avec les entreprises, on travaille pour les aider à faire progresser en termes de performance économique, environnementale et sociale, et trouver cet équilibre. Alors Geneviève, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment faites-vous, quelles sont les principales étapes quand vous rencontrez une entreprise qui finalement tape à votre porte et vous dit moi, développement durable, j'aimerais bien en faire finalement.
Oui, effectivement. Une chose qui est intéressante et que tu as soulevé, c'est l'aspect social du développement durable qui est souvent négligé. On pense habituellement que le développement durable égale nécessairement environnement, égale nécessairement recyclage, alors que c'est beaucoup plus de choses que ça. Les entreprises qui viennent cogner à notre porte se rendent bien compte, lorsqu'ils parlent avec nous, qu'ils en font certaines actions de développement durable à l'interne, que ce soit au niveau économique, environnemental ou au niveau social. La façon dont on s'y prend, nous, c'est qu'on engage un dialogue avec l'entreprise en question pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent solliciter nos services. Mm. Parce que initier une démarche de développement durable, ça se fait de deux façons, en règle générale. Une entreprise peut sélectionner ou peut choisir d'opter pour une structure, donc avoir un modèle vraiment plus structurant. On parle alors d'une politique de développement durable, on parle alors d'un diagnostic de développement durable et même d'un plan d'action, alors que d'autres entreprises vont privilégier l'action, donc privilégier des petits projets à mettre en œuvre à l'interne. Lorsqu'on sélectionne une structure ou lorsqu'une entreprise se lance dans une structure, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer un portrait global de ce que fait l'entreprise. Donc, on va aller parler aux employés, aux gestionnaires, aux fournisseurs, aux clients, question d'avoir une idée de ce que fait l'entreprise à ce niveau-là, et ensuite, pour être en mesure de leur donner des pistes d'amélioration qui seront en mesure de mettre dans leur plan d'action par la suite. Et évidemment, c'est habituellement accompagné d'un engagement formel de la direction, c'est-à-dire d'une politique de développement durable. Habituellement, les entreprises de plus grande envergure vont choisir la structure avant les projets, alors que les PME vont plutôt solliciter les plus petits projets et l'action en premier. C'est comme ça. C'est l'un et l'autre est tout à fait bon. L'important, c'est qu'on arrive, si on choisit la structure, à avoir des actions concrètes. Mm. Et si on commence par les actions concrètes, à avoir une structure par la suite. Ouais. Parce que l'un ne va pas sans l'autre inévitablement. Et on pourrait s'y perdre en cours de route si on n'accomplit pas toutes ces actions-là. Dans le fond, je compare ça souvent quand je parle avec mes clients à une maison. On peut choisir de monter la structure de la maison ou d'y aller brique par brique, mais ça prend les briques et ça prend la structure, ça prend les deux en bout de ligne pour qu'on puisse y habiter dans cette maison-là. Quand on parle de projets ou d'actions de développement durable, ça va être habituellement des projets qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblés. Ces projets-là peuvent être déterminés par l'organisation parce qu'elle voit des priorités à y faire. Ça peut être suggéré par nous. Ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont les projets en efficacité énergétique. Ouais. qui est vraiment un souci important pour les entreprises parce que ça a un effet assez direct habituellement dans leur poche.
Dans leur poche, c'est ce que j'allais dire.
Exactement. Et parce qu'il existe quand même pas mal de subventions aussi pour les aider à s'améliorer en ce sens. Mm. Donc, on avait les Enviroclubs tout dernièrement qui existaient jusqu'à tout récemment, qui étaient quand même un bon incitateur pour les entreprises, pour se lancer dans ce genre de projet-là. On le voit aussi en gestion de l'eau, on le voit à plein niveau, mais l'efficacité ou tout ce qui touche à la production et les procédés, c'est souvent prioritaire pour certains types d'entreprises.
Mm-hmm. Il y a aussi, la ressource humaine aussi, les salariés.
Absolument. Mm. Tout ce qui est salariés pour les entreprises qui sont surtout confrontées avec des problématiques d'attraction, ou de rétention de main-d'œuvre, on va, à ce moment-là, s'attarder beaucoup plus à des projets de mobilisation, des projets de conciliation travail-famille. Dans la réalité d'aujourd'hui, c'est quand même un aspect non négligeable. On a plusieurs départs à la retraite. Il y a une forte compétitivité pour la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. On n'a qu'à penser au secteur en informatique. Donc, les entreprises veulent offrir des conditions de travail avantageuses à leurs employés. Et évidemment, pour ces conditions-là, il faut que ça soit viable économiquement aussi pour l'entreprise. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux à faire. Et on a souvent aussi des projets en gestion des matières résiduelles. Ça, c'est tout ce qui est gestion des déchets, des matières recyclables, et parfois même pour les plus aventureux, la gestion des matières compostables, parfois. Ouais. Il y a certaines entreprises qui s'y lancent. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que la gestion des matières résiduelles, quand elle est bien faite, c'est souvent, on va observer un retour sur investissement parce que c'est évidemment, on a de l'acquisition de matériel à faire, que ce soit des contenants à l'intérieur, que ce soit des contenants à l'extérieur, mais plusieurs études le demandent que au coût de levée, ça devient moins cher de bien traiter ces matières que de tout les jeter, que tout jeter finalement dans les poubelles.
Alors, ouais, tu disais qu'il y avait en fait deux méthodes, un peu deux approches, en tout cas deux façons de commencer, on va dire.
Oui.
Mais je suppose qu'elles se rejoignent à un moment ou à un autre parce que finalement, quand on lance des projets, au bout d'un moment, on est obligé de les rassembler ou donner une certaine cohérence à toutes ces petites actions.
Effectivement. C'est le danger du projet. C'est le danger de s'écarter et de perdre un peu le fil conducteur ou l'objectif ultime auquel on veut arriver par la suite. Mm-hmm. Donc, c'est bien de commencer par des projets parce qu'on est tout de suite dans l'action.
C'est motivant.
C'est motivant. Ouais. On peut engager tout de suite les employés dans ce processus-là. Puis, on a un impact vraiment immédiat parfois. Mais faut y aller de prudence. Faut vraiment par la suite bien structurer, bien se donner un cadre parce qu'on peut se lancer dans n'importe quelle direction finalement pour arriver par la suite avec peut-être une démarche qui manque de structure finalement.
Comme tu l'as dit, c'est faire du développement durable, c'est on couvre beaucoup de sujets, c'est structurant pour l'entreprise. C'est aussi il y a un peu quelque part une remise en question de comment fonctionne l'organisation aussi. Comment est-ce que vous aidez, vous, les organisations à aborder la question sans brusquer et sans créer éventuellement de rejet ou de peur, finalement, parce que c'est un processus de changement. C'est un processus de changement qui peut être difficile.
Oui, effectivement. Dépendamment qui nous appelle pour solliciter nos services, on va agir de différentes façons. Bien entendu, ça prend l'aval de la haute direction. C'est inévitable. Le développement durable, c'est une question de culture organisationnelle. La haute direction doit s'engager à faire preuve d'exemplarité. Ça serait d'ailleurs tout à fait ironique de demander à nos employés de prendre des tasses réutilisables si on voit constamment le directeur prendre des verres de styromousse. Ça serait totalement aberrant de demander à des employés de faire du covoiturage si la haute direction vient continuellement en auto-solo et de demander à nos employés de s'impliquer dans diverses causes si la haute direction ne le fait pas. Donc, avant tout, il faut que ça vienne d'en haut. Puis, à partir de là, on est capable, avec l'appui de divers outils de communication, d'ailleurs, de mobiliser les employés. Les outils de communication se doivent d'être extrêmement variés. Il faut choisir notre support, que ce soit de l'imprimer, que ce soit plus interactif. Ce qui fonctionne très bien, c'est la rencontre. C'est de vraiment d'engager le dialogue direct avec les employés en question, de même prendre leurs suggestions, leurs commentaires, mm-hmm. parce qu'avant toute chose, ils ont leur mot à dire sur le plan d'action. Ils ont souvent des solutions
oui.
très intéressantes à venir proposer. Et faut vraiment s'assurer qu'ils soient avec nous dès le départ, parce que c'est eux qui vont être les porteurs, ultimement, mm-hmm. de ce plan d'action-là. On va très fortement encourager aussi à notre clientèle de se doter d'un comité de développement durable. Parce que ça prend des porteurs de dossiers, mmh. ça prend des gens qui vont être là pour motiver aussi les troupes en arrière de tout ça et de bien coordonner la structure. Quand on parle de gestion du changement, évidemment, c'est toujours épineux. C'est vraiment très important de bien expliquer les objectifs de la démarche, les répercussions. Puis, c'est important de dire qu'au-delà de leur geste, l'employé ou le personnel en question va générer telle retombée significative. Mm-hmm. C'est important de les responsabiliser. C'est un objectif commun. C'est un objectif où tous doivent y participer. Puis, il y a aussi la notion du temps. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut mm-hmm. vraiment respecter un certain rythme. Puis ça, il faut faire preuve d'ajustement et de flexibilité à cet égard-là. Quand on sent que ça accroche, souvent, on se rétracte.
Oui.
On fait un petit pas en arrière pour mieux revenir par la suite. Parce que sinon, mm-hmm. on part sur des mauvaises assises. Et c'est là qu'on peut carrément se planter, disons-le, avec certains projets. Alors que si on avait fait preuve d'un peu plus de prudence, on aurait mm-hmm. eu un succès à la place. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout le monde comprenne le discours qu'on utilise, donc comprenne le même langage. Donc, il faut s'assurer que tout soit clair pour tout le monde.
Je suppose aussi qu'il faut aussi avoir un équilibre entre des actions faciles, entre guillemets, pour qu'on soit récompensé un peu rapidement, puis qu'on soit content, et des actions un peu plus long terme, un peu plus complexes. Et donc, il faut répartir dans le temps un peu les différents projets dans le plan d'action.
Effectivement, souvent, on va commencer avec des actions faciles parce que ça permet, dès le départ, de motiver les troupes. Et ces actions faciles-là, il en existe amplement. Hein? On en a à moindre coût, d'ailleurs, que ce soit d'installer une boîte de récupération des piles. Avec appel à recycler, maintenant, c'est très facile. On appelle, ils nous enlèvent une, on la remplit de piles, elle repart, ça ne coûte rien.
En plus, à mesurer, c'est facile.
en plus. Et ça, c'est par exemple un des projets qu'on a, dès le départ, initié chez un de mes clients. Et quand on a fait la tournée de promotion de l'arrivée de l'implantation du recyclage de piles, on avait des échos extrêmement positifs parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs personnes les collectionnaient. Je peux m'exprimer ici à la maison parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec leurs piles. Donc, pour eux, c'était une solution que l'entreprise apportait. Ils voyaient déjà que l'entreprise est très prête à avancer. Et pour l'entreprise, ça n'a rien coûté, cette petite action-là. Mais évidemment, ça en prend d'autres qui sont sur le long terme et qui prennent un peu plus de temps à mettre en branle. Un plan d'action, habituellement, ça s'échelonne sur quelques années. Parce que il y a des actions qui sont un petit peu plus costaudes que d'autres en termes de réorganisation des processus, des procédés, ça prend beaucoup plus de travail et de recherche.
De la recherche aussi technique.
Oui. La recherche technique, des études de faisabilité, par exemple, avant d'offrir certains services, par exemple, en transport durable, il faut faire des études adéquates en ce sens-là. Avant d'appliquer certaines conditions de conciliation travail-famille, il faut s'assurer de ce que les employés veulent nécessairement pour pas mettre en œuvre des actions dans le vide, finalement. Et au niveau de tout ce qui est environnemental, donc au niveau énergétique, ça peut se faire sur plusieurs années. Et il y a tout ce qui est aussi le changement au niveau des approvisionnements qui peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faut chercher des nouveaux fournisseurs. La demande n'est pas toujours là pour ce genre de produits-là. Donc, parfois, les coûts sont élevés, parfois, ils ne sont pas disponibles. On a un bon boulot qui peut se faire sur un plan d'action, soit des petites actions, des moyennes et des un petit peu plus costaudes, comme je disais tout à l'heure.
Faire du développement durable, c'est aussi travailler beaucoup en partenariat. On parle de parties prenantes. C'est aussi pour ça que certaines actions sont un peu plus compliquées parce qu'il faut entamer le dialogue. Peut-être qu'il y a des gens avec qui on ne parlait même pas, avec qui on a besoin de travailler pour trouver des solutions. Donc, c'est entamer une démarche de développement durable, c'est faire un diagnostic sur soi-même, mais aussi son rapport avec ses partenaires finalement. Donc beaucoup d'investissement dans la partie communication, et puis il faut être sûr de soi, entre guillemets, d'être prêt à être un peu transparent aussi.
Il faut être ouvert à la critique,
ouais.
Premièrement. Il faut être transparent, effectivement. Puis être transparent et être ouvert à la critique, ça donne une crédibilité aussi à l'entreprise qui s'engage dans cette démarche-là. Ne pas le faire, ça a le potentiel de s'attirer les foudres de la collectivité, de la communauté, des employés. Parce qu'on ne veut pas se faire prendre en défaut. Donc, toute entreprise a intérêt à communiquer ses bons coups avec transparence, mais également ses moins bons, sur lesquels elle entend travailler par la suite. Mm-hmm. Et s'engager dans un dialogue de parties prenantes, donc avec tous ceux qui sont impactés de près ou de loin par les activités de notre entreprise, c'est un processus qui doit être instauré dès le départ. Et c'est un processus qui est très important. Donc, bon. Il y a des parties prenantes à informer, il y a des parties prenantes à intégrer à la démarche, il y a des parties prenantes à consulter. Donc, il faut vraiment bien les classifier, ces parties prenantes-là, puis adapter notre approche en fonction des besoins et des attentes de chacune d'entre elles.
Bien. On va faire une petite pause musicale, et puis on se retrouve tout de suite après.
Choisis ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit une ghetto. Naître les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Être en treillis de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, MICRO. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer.
De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'état, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire. Matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
C'était Calogero avec Face à la mer. Voilà. On est de retour avec Geneviève. On va parler de développement durable en entreprise. On a parlé d'actions. Finalement, des actions en développement durable, on peut en avoir beaucoup. Du recyclage des piles, réduire notre consommation d'eau, réduire notre consommation d'énergie, faciliter la conciliation travail-famille. Donc, finalement, on commence par quoi? C'est compliqué?
Oui, c'est compliqué. À vrai dire, quand on fait un premier diagnostic avec les entreprises, souvent, ce qu'on entend, c'est « on veut tout faire ».
Oui, c'est ça.
On veut tout faire. Et lorsqu'on met un petit peu en perspective les sous-étapes de chacune de ces actions-là, ben on note pour une plutôt que l'autre. À vrai dire, les actions à privilégier sont souvent axées sur les valeurs de l'entreprise, sa stratégie, parce que ces entreprises ont toute une stratégie à long terme. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Où est-ce qu'ils souhaitent devenir dans les futures années? On a aussi une question de ressources, parce que ça prend des ressources à l'interne, parfois des porteurs de dossiers, des ressources financières, des ressources, ça prend des gens pour s'occuper de ces dossiers-là, et parfois ils ne les ont pas, tout simplement.
Ouais. Donc, c'est important que tu parles de stratégie. Pardon,
vas-y, vas-y.
Mais, souvent, on a l'impression que quand on veut faire du développement durable, on fait ça à côté. La stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a le business, puis à côté, on fait du développement durable.
Évidemment, le mieux, c'est d'arrimer les deux plans ensemble, ce qui se fait dans certaines organisations, mais pas dans toutes, malheureusement. Donc, on a une stratégie d'entreprise, parfois, et ensuite une stratégie de développement durable. Dans le meilleur des mondes, on essaie d'arrimer les deux parce que c'est foncièrement interrelié les deux. Mais pour ce qui est au niveau de la priorité des entreprises, pour revenir au niveau stratégique, par exemple, une entreprise en restauration a tout intérêt aujourd'hui de prioriser des actions par rapport à la gestion des matières compostables, parce qu'on sait qu'il va y avoir une interdiction en 2020 d'enfouir les matières compostables. Une entreprise qui a, par exemple, des résidus de bois, doit trouver des alternatives, elle également, pour se départir de ces résidus de bois. Et ça, on le voit fréquemment avec les fameuses palettes qu'on voit dans les entreprises qui sont un petit peu partout, soit dans les cours. Ils ne savent pas toujours quoi en faire. C'est sûr que les entreprises qui se spécialisent dans la récupération de ces palettes de bois-là, somme toute, il y a encore une problématique au niveau des palettes de bois et ça, on dit souvent à nos clients, faites attention, trouvez des débouchés parce que ça va venir assez, assez rapidement.
C'est une analyse des risques quand on fait un premier diagnostic.
Une analyse des risques, mais aussi une analyse de, ça dépend de la conscience, de la culture organisationnelle de qui est en place. Les actions en environnement vont être souvent par conscience environnementale, sauf pour des notions d'économie d'énergie. On le voit, c'est vraiment au niveau de la culture organisationnelle, ça dépend vraiment des décideurs qui sont là. Puis il y a parfois aussi, faut mentionner, la pression qui vient d'en bas. Les employés sont des acteurs importants des entreprises et ils font des demandes à leur organisation et l'organisation doit livrer la marchandise aussi en ce sens-là. Et une entreprise, par exemple, qui génère énormément de déchets, a tout intérêt à travailler sur la gestion des matières résiduelles. Donc, on priorise en fonction de ce qui est faisable, premièrement, et en fonction des valeurs de la stratégie, de la culture organisationnelle.
On parlait aussi de rétention. Je pense que c'est plus en plus important pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail de faire partie d'une entreprise qui est, dont ils sont fiers et qui ont des actions finalement responsables. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie sur ce sujet-là où les valeurs de l'entreprise sont vraiment un choix, enfin, partie du choix des nouveaux entrants sur le marché du travail.
Oui, ils sont très conscientisés. Et il y a d'ailleurs des sites de recherche d'emploi tels qu'Engagé qui répond à ce besoin-là des jeunes de trouver un emploi ou de trouver un emploi, oui, chez un employeur qui est responsable ou qui est perçu de façon responsable aussi par la société. Puis, c'est de moins en moins... c'est moins bien perçu, finalement, de travailler pour un employeur qui se fait pointer du doigt. On veut que notre employeur soit bon, qu'il soit le meilleur, qu'il soit un leader dans sa catégorie. On veut, finalement, avoir ce sentiment d'arrimer nos valeurs finalement sur celles de l'entreprise. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est une extension de notre vie personnelle, mais sur l'aspect professionnel. Il faut qu'il y ait l'arrimage finalement des valeurs entre les jeunes et celles de l'organisation.
Ça donne aussi plus de motivation à innover dans l'entreprise finalement aussi. Quand on est fier, on a envie que l'entreprise soit meilleure, et quand on nous pose la question, est-ce que vous avez des solutions, est-ce que vous avez des idées, on aura plus tendance à participer et puis à collaborer avec l'entreprise.
Oui, effectivement, sont plus engagés ces jeunes-là, ils sont plus prêts à participer à ce projet d'entreprise-là et à porter finalement, de mettre l'épaule à la roue pour que ça avance et que l'entreprise adopte les meilleures pratiques de son secteur d'activité, définitivement.
Ouais. Alors, comme on disait, parfois, on a envie de tout faire. On a l'impression que, finalement, c'est simple. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il n'y a plus qu'à. Parfois, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit.
Oui, effectivement. Il y a certaines actions qu'on pense qui vont être super simple. Par exemple, à la maison, vous comme moi, on fait tous du recyclage pêle-mêle. On met notre bouteille, notre boîte de conserve dans le bac et ça se termine là. Et on pense que ce modèle-là peut être reproduit en entreprise, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même plusieurs étapes pour implanter, par exemple, le recyclage, qui est une action qui semble tout à fait banale dans les organisations. Par exemple, pour certaines structures, pour certaines organisations, il y a vraiment toute une étude à faire au niveau de la composition des matières résiduelles. Donc, il faut vraiment être en mesure d'évaluer la quantité de matières recyclables qui vont être générées, de prévoir les types de contenants utilisés à l'interne. Puis ce type de contenant-là doit être évalué par les employés, parfois au niveau ergonomique, au niveau d'hygiène et salubrité, au niveau de l'entretien ménager qui aura à manipuler les sacs qui vont être à l'intérieur des contenants, Il y a tous les conteneurs extérieurs aussi qu'il faut évaluer, donc l'emplacement, la grosseur, aller parfois en appel d'offres également pour aller acquérir ce conteneur-là et même les services de collecte. Et aussi, l'entretien ménager, c'est un acteur important de tout ce qui est la gestion des matières recyclables. On doit s'assurer qu'ils intègrent tout ça à leur routine, parce que ça a bien beau être la même quantité, mais il y a quand même deux sacs à gérer. Donc, au lieu d'avoir seulement qu'un sac à ordures, maintenant, on a un sac à ordures, un sac transparent. Donc, ça fait quand même une double manipulation. Donc, c'est important de travailler avec eux pour qu'ils se développent les meilleures routines possibles et les meilleurs processus. Et, par exemple, dans le secteur de la santé, parfois, on a les cuisines qui s'occupent de leur propre recyclage, alors que c'est le service de l'entretien qui s'occupe du recyclage sur les étages. Donc, comment qu'on arrime ces deux routes, finalement, de recyclage-là, mais ça reste quand même quelque chose de complexe à exécuter. Et il y a toute l'interaction avec les parties prenantes. Donc, on doit vraiment rencontrer les gens, le personnel sur le terrain, rencontrer finalement les fournisseurs, nous assurer d'avoir le bon produit, de s'intéresser aux études du comité de développement durable pour nous assurer que tout est bon. Et il y a tous les outils de communication aussi qui viennent avec ça, parce qu'on veut que les gens participent. Donc, c'est quand même une petite étape. Le recyclage, c'est quand même en soi simple pour le commun des mortels qui le pratiquent à la maison, mais dès qu'on le transpose en entreprise, ça peut devenir quand même un processus beaucoup plus long, finalement. C'est pas nécessairement plus complexe, mais c'est quand même un processus beaucoup plus long dans le temps, et qu'il faut faire avec les bonnes étapes pour que ce soit encore là un succès.
Oui, et puis il faut trouver aussi les filières.
Trouver les filières par la suite. Oui. Il y a beaucoup de sous-étapes.
Ouais. C'était là, on a parlé du recyclage, la partie déchets, mais comme on l'a déjà dit, on touche finalement plusieurs domaines. Quand on est responsable de développement durable, on ne peut pas être spécialiste de tout.
Non, effectivement.
Finalement, pour être responsable de développement durable, il faut avoir quoi comme compétence? Parce que on peut être très bon en déchets, puis pas très bon dans l'énergie, ou pas très bon dans les
À vrai dire, les gens qui se spécialisent en développement durable sont à la base des généralistes. Ils ont des compétences ou des connaissances, du moins dans chacun des aspects du développement durable. Bon, il y en a un, selon le Bureau de la normalisation du Québec, c'est à Québec, 21 enjeux pour décrire le développement durable, tant la santé et sécurité au travail que l'impact sur l'environnement local, que sur la responsabilité sur les produits et services. Bref, c'est à nous, en tant qu'experts de développement durable, de nous assurer qu'il y ait des liens qui se créent dans les entreprises sur tous ces aspects-là et sur tous ces enjeux-là. Le développement durable, dans le fond, c'est, je vois ça un peu comme être chef d'orchestre de plusieurs fonctions au sein d'une organisation. Souvent, c'est les ressources humaines qui vont s'occuper de tout ce qui est motivation des employés, développement des compétences, le directeur de l'usine qui va s'occuper de la santé et sécurité au travail, bon, les services comptables qui vont s'occuper de l'aspect financier. Nous, notre rôle, c'est de nous assurer que les cuivres et les percussions et que les vents, mais que ça soit une belle symphonie et que ça tienne la route avec les valeurs ou de ce que veut transposer finalement un développement dit durable. Donc, c'est un petit peu notre rôle.
Oui, c'est un grand coordinateur finalement.
Oui, c'est ça.
Je crois que chez Tactiti, vous avez justement monté une formation pour développer les compétences d'un responsable en développement durable.
Effectivement. Au cours de nos mandats, on s'est rendu compte que les entrepreneurs sont sensibilisés. Ce qui leur manque, c'est le quoi faire et le comment faire. Et on a développé, en collaboration avec le Centre de formation professionnelle Maurice Barbeau, un cours à cet effet-là, un cours qui s'appelle « Implantation de programmes de développement durable en entreprise ». C'est axé sur certains principes de développement durable, mais on vise vraiment l'application du développement durable, donc vraiment le concret et non la théorie. Parce que notre clientèle cible, c'est des gestionnaires qui se font donner le dossier du développement durable sur leur bureau et qui n'y connaissent rien du tout. Donc, notre but est un peu de les amener au travers de tout ça, à prendre les connaissances nécessaires pour être porteur de dossier par la suite. Donc, on s'est adjoint de partenaires pour donner certains cours. Donc, on a Concilia en conciliation travail-famille, on a Mobilité qui est en transport durable, on a Ambionnaire en efficacité énergétique, on a eu aussi des visites de la laiterie de Charlevoix, on est allé sur place chez Technion. Donc, ça se veut une formation très interactive, très axée sur le concret, très tangible, donc pour des gens qui doivent avoir du factuel, donc qui ont besoin de l'appliquer maintenant et concrètement dans leur structure, dans leur organisation finalement. Et c'est quand même un cours d'une centaine d'heures, donc c'est beaucoup de matière. C'est beaucoup de matière pour les gens qui assistent à nos cours, mais quand même l'assimilation se fait très très bien. Et on a des très très belles retombées de tout ça. On a vraiment des échos très intéressants parce qu'on voit que ils sont capables de l'appliquer par la suite dans leur propre organisation. Donc ça, c'est un petit baume pour nous. Ça veut dire qu'on fait bien notre travail et qu'ils apprennent au travers de tout ça.
Donc ça se passe à Québec, finalement?
Ça se passe à Québec, oui.
Donc, il y a des acteurs en développement durable à Québec. Ça se passe pas que à Montréal, comme on pourrait le croire?
Non, ça se passe pas qu'à Montréal. C'est certain qu'on a tendance à croire que le développement durable, ça se passe à Montréal. Mais, bon, peut-être parce que plusieurs sièges sociaux importants sont là.
Ouais.
Mais dans les faits, c'est tout aussi mouvementé ici à Québec. C'est juste que peut-être qu'on en a moins conscience. Ce qui est certain, c'est qu'à Québec, c'est un petit peu plus communautaire. Donc, on va avoir un petit peu plus d'OBNL, de coopératives qui œuvrent dans le développement durable. Et à part nous, dans les entreprises, ben, on a surtout des entreprises plus spécialisées. Comme je mentionnais tout à l'heure, Concilia, c'est une entreprise en conciliation travail-famille. Nous, on fait affaire aussi avec Tergos en construction verte. Parmi d'autres organisations, des OBNL avec qui on fait affaire, mais Vivre en ville à Frédéric Bach en mobilité. Bref, il y a des acteurs très actifs ici à Québec. Ah oui, puis Grivert aussi qu'on utilise fréquemment, qui est tout ce qui est interaction avec les parties prenantes. Donc, il y a des acteurs, ils sont là. C'est aussi mouvementé ici à Québec. C'est peut-être qu'on a plus tendance à croire que ça se passe à Montréal, mais je vous rassure, ça se passe tout autant à Québec que le développement durable est très actif à cet égard-là.
Oui. Bon, en tout cas, on espère que Tactiti va continuer à œuvrer pour le développement durable à Montréal et à Québec. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous pour nous parler de développement durable. Et puis, je voulais juste vous signaler une conférence gratuite qui va avoir lieu la semaine prochaine, mardi prochain, à l'Université Laval. C'est organisé par l'Institut Hydro-Québec Environnement, Développement et Société, qu'on a reçu d'ailleurs dans l'émission. Donc c'est mardi prochain à l'Université Laval et ça va être une conférence qui sera sur « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?» sur développement durable et biodiversité, c'est-à-dire comment quand l'homme va s'adapter à finalement ce monde qui va changer. Vous verrez ça sur le site de Sekaya, je vous mettrai le lien. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine avec Julien. Ça sera donc mercredi à 17h sur Sekaya.